nu. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Roger Munier s'entretient avec Michel Camus. Premier entretien.
C'est par une fiction que nous croyons, de nous seuls, et partant de nous seuls, regarder le monde. Par nos yeux, comme par tous les yeux qui voient, c'est le monde qui nous a fait voyants, qui se regarde.
Roger Munier occupe une place à part dans la littérature et la poésie contemporaine. Il refuse le nom de poète, parce qu'il n'écrit pas de poèmes. Mais chez lui, pensée et poésie participent d'une même recherche, d'une même interrogation de l'essentiel. Pour me tirer d'embarras, je dirais que Roger Munier est un métapoète, habité comme il l'est par une vision poétique qui, comme chez Héraclite ou comme Novalis, est inséparable d'une philosophie du réel le plus énigmatique. Disons pour simplifier que Roger Munier est un porte-parole de l'énigme. Né en 1923, il a publié des essais critiques qui n'ont pas pris un pli, des traductions remarquables, notamment de Heidegger, Octavio Paz, Roberto Juaros, Antonio Porcia, Héraclite, entre autres. Des méditations philosophiques étrangères à tout système, comme le seul ou mélancolie. Des aphorismes ou des méditations poétiques comme l'instant, l'ordre du jour, le mois du monde, Éden, Requiem, le visiteur qui jamais ne vient, et récemment, tout feu éteint. Plus d'une cinquantaine de livres qu'il a essaimés chez une douzaine d'éditeurs, parmi lesquels Gallimard, Fata Morgana, Chou, Arfuyen, les éditions de la Différence, le Nyctalope, Lettres vives, Dérolles, etc. Il dirige depuis de nombreuses années la collection L'Espace intérieur aux éditions Fayard, qui publie des textes des grandes traditions mystiques orientales et occidentales. La revue de la NRF lui a rendu hommage en lui consacrant l'essentiel d'un numéro en 1991. Roger Munier fait aussi partie du comité international de la revue L'Autre et publie dans de nombreuses revues françaises et étrangères. Il publiera dans quelques mois un volumineux essai auquel il travaille depuis 10 ans, L'ardente patience d'Arthur Rimbaud. Roger Munier, votre vie et votre œuvre ne sont-elles pas précisément le fruit lentement mûri d'une longue patience?
Si, l'expression est bonne et pourrait valoir pour moi. D'ailleurs, je dois vous dire que si Rimbaud m'a passionné comme il m'a passionné, c'est parce que, le génie mis à part, je me retrouvais dans ce qui m'a semblé être sa démarche fondamentale. En fait, j'ai toujours désiré être un écrivain. Dès l'âge de 13 ans, où j'écrivais des poèmes, et bien alors après, les études se sont greffées sur une vocation qui me paraissait certaine. J'avais même déjà choisi un pseudonyme à cet âge, c'est vous dire.
Qui était ?
Gérard Darmon. C'était très étrange parce que c'est la première fois que je le dis. C'était très drôle. Mais en fait, j'ai toujours été habité par cette idée-là. Mais les études sont venues et ont accumulé beaucoup de choses dont il m'a fallu lentement et peu à peu me débarrasser pour retrouver quelque chose de ce qui me semblait être ma ligne, ma voix. Vous dites que je ne suis pas un poète, c'est vrai, et je le dis et je le répète. En dépit des protestations de beaucoup de mes amis, et notamment d'Yves Bonnefoy, que ces propos exaspèrent un peu souvent. Je sais ce qu'est écrire un poème et je ne me sens pas poète, c'est indéniable. Disons que si j'ai un parcours un peu différent, c'est parce que je me sens, comment dire, profondément archaïque. Archaïque au sens où de grands ancêtres l'étaient, les présocratiques notamment, mais également dans d'autres traditions littéraires et religieuses de l'humanité. Et que tout mon chemin a presque consisté à remonter à la culture que j'avais assez étendue, c'est certain. J'ai fait des études très diverses. Je suis resté près de 9 ans dans la Compagnie de Jésus. Vous savez que les études sont très poussées.
Études de théologie.
Études de philosophie, de lettres, de philosophie et de théologie. Ce qui impose un survol vraiment très large des connaissances humaines. Oh, je n'ai acquis aucune spécialité particulière, et même dans le domaine philosophique, je ne me considère pas non plus, au fond, comme un philosophe, parce que écrire de grandes machines savantes, conceptuelles, bien huilées, ne m'a jamais tenté. Mais ça va plus loin. Je me souviens que Heidegger me disait « Pourquoi n'avez-vous pas écrit un mot d'avant-propos à votre nouvelle traduction de « Qu'est-ce que la métaphysique ?» Ça semblait même un peu l'irriter. Non, j'avais traduit, ça me paraissait suffisant. La philosophie ne m'a jamais vraiment intéressé comme telle, la théologie non plus. Mais ce qu'il y a de commun à la philosophie et à la théologie, et donc à la littérature qui couvre ces deux disciplines, puisque un philosophe est un écrivain, un théologien l'est aussi. Ce qui gouverne tout cela, en avoir la perception aussi simple que possible et aussi proche que possible des gens, de la vie, c'est un peu mon objectif et, je dirais, mon idéal.
Je vais faire un tout petit retour en arrière à ces années de séminaire. Vous aviez une vocation de
tout à fait.
Est-ce que vous avez été prêtre?
Ah, je ne l'ai jamais perdu.
Ah, vous avez été prêtre, donc?
Ah non, pas du tout. Ah, non, je suis sorti avant le sacerdoce, comme un certain nombre de gens, n'est-ce pas? Les études sont très longues dans la Compagnie de Jésus. Elles sont très longues, elles durent 13 ans, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas tout fait. Et non, je suis sorti, j'étais ce qu'on appelle un scolastique. Charles me disait, au fond, vous êtes fidèle à vous-même, vous n'avez jamais changé, c'est vrai. Seulement, ce que je cherche est très en amont, n'est-ce pas? Je cherche toujours quelque chose qui soit très en amont. C'est ça qui pourrait me définir, et qui fait que je suis, en effet, difficilement classable, catégoriable, parce que c'est en aval que les disciplines se fondent et qu'elles s'établissent clairement. Alors, on est un poète, n'est-ce pas? Et on fait des poèmes. Et si l'on est un poète et si l'on fait des poèmes, on n'est pas un romancier, en général. Si l'on est un romancier, on n'est pas forcément un essayiste, quoique parfois ça arrive. Si l'on est un essayiste, on n'est pas non plus vraiment un philosophe. Si l'on est un philosophe, on est encore moins un théologien, etc. Tout ça est normal. Il faut bien que les choses soient claires et qu'elles se dessinent dans des périmètres assuré, mais moi, à mon avis, quelque chose se perd dans cette dissémination, dans cette différenciation excessive. Et si j'ai une vocation, il me semble que c'est d'être comme ça en amont, d'essayer, en remontant une culture que j'ai vaste, de retrouver quelque chose de très primitif, de très auroral, qui passe d'ailleurs souvent beaucoup plus dans les textes brefs que j'ai publiés ici et là que dans les essais conduits assez rationnellement, la critique des poètes ou même dans les méditations que vous avez citées au début. Parce que dans la plus chère à mon cœur est certainement Mélancolie, n'est-ce pas?
Parce que c'est un questionnement, là, tout à fait, disons, originel, pour ne pas dire original, et qui sort justement du cadre des grandes traditions. Vous avez commencé par plonger dans une tradition qui était celle des jésuites, pour en sortir et vous ouvrir à l'inconnu.
Alors, moi, je demeure, n'est-ce pas, c'est une chose est sûre, c'est que je reste un occidental. Ma quête part d'un terreau, c'est le terreau occidental, et, disons, l'Occident chrétien. Fondamentalement, Je ne m'en suis jamais séparé réellement. Et je ne souhaite pas m'en séparer. Si le bouddhisme m'a beaucoup impressionné, le seul bouddhisme qui me paraisse intéressant, c'est celui qu'on peut pratiquer dans cette campagne, par exemple, ou à Brive-la-Gaillarde, ou à Brie-sur-Marne, ou même à Paris, et même éventuellement dans le métro. Parce que tout le folklore oriental est très très loin de ma sensibilité, d'une part. Mais d'autre part, je reste très attaché à une vision du monde qui est la vision, disons, judéo-chrétienne. Et j'admire à cet égard énormément Israël et le génie d'Israël. J'ai énormément d'amis juifs et ils exercent sur moi toujours une certaine fascination.
Heidegger, par exemple, n'était pas spécialement dans cette tradition judéo-chrétienne. Vous avez publié à 29 ans, en 1952, dans les Cahiers du Sud, une deuxième visite à Heidegger qui avait eu lieu en septembre 1950. Alors, quand a eu lieu cette première visite et comment cette rencontre
C'était
en 50, vous étiez très très jeune encore.
Tout à fait, ça s'est fait de la façon la plus fortuite. J'étais en séjour d'études en Forêt-Noire pour perfectionner mon allemand. Comme il arrivait à cette époque, c'était les relations culturelles qui envoyaient là-bas dans une Allemagne démolie, détruite, effondrée, et on pouvait, très bon compte, perfectionner son allemand. Je me trouvais près à Saint-Blasien, en Forêt-Noire, et j'étais très ami d'un jeune prêtre de la Mission de France, que j'aimerais d'ailleurs retrouver si par hasard il m'entend et qu'il me fascine, j'en aurais un infini plaisir, et qui se trouvait être aumônier dans l'armée française, d'un sanatorium de l'armée qui se trouvait à Saint-Blasien, dans un ancien sanatorium allemand. Il était aumônier de l'armée, il était capitaine, et nous nous voyons, et un jour, au détour d'une conversation, il me dit « Est-ce que tu sais que Heidegger habite tout près d'ici ?» Je lui dis « Non, pas du tout. » Il me dit « Si, c'est à Totenauberg, c'est à une quinzaine de kilomètres. Si tu veux, je peux t'y emmener. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors je n'étais pas annoncé, je n'avais pris aucune espèce de précaution préalable. Avec beaucoup d'innocence, je me suis présenté dans la petite maison de chalet de montagne très modeste, la Hütte, comme on dit en allemand, où il vivait les mois d'été, les beaux mois, dans une réelle pauvreté d'ailleurs, en tout cas une existence très spartiate, avec sa femme. Et oui, il travaillait. Je me suis présenté, je me suis dit, voilà, je suis un étudiant français, je serais tellement heureux si je pouvais rencontrer Martin Heidegger. Il faut dire qu'à cette époque, j'étais scolastique dans la Compagnie de Jésus, et donc en clergyman. Heidegger lui-même avait voulu entrer chez les jésuites. Et il a même fait 3 années de ce qu'on appelle le grand séminaire ici en France, c'est-à-dire la faculté de théologie à Fribourg. C'est pour ça que quand il parle de théologie, il sait de quoi il parle, cela soit dit entre parenthèses. Et elle me dit, Madame Heidegger me dit, attendez un peu. Moi, je parlais en français, bien sûr. Elle-même m'a répondu en français, elle parlait bien le français. Attendez un peu. Et je prends moi 20-30 secondes plus tard, elle me dit, oui, venez, entrez. Alors là, je suis entré. Alors je ne veux pas revenir sur la description qui a été faite de cette première visite en long et en large, mais j'ai reçu un très très bon accueil. Je parlais français, Heidegger parlait allemand. Et c'est seulement la seconde année que je parlais moi-même allemand avec lui. Entre-temps, s'était produit l'éveil et j'avais commencé la traduction de la lettre sur l'humanisme, justement. Mais vous voyez, ça s'est fait de la façon la plus fortuite. Je n'avais aucun projet particulier en tête. Mais ce jour-là, quelque chose a changé dans ma vie. Parce que j'ai trouvé enfin là un point d'ancrage dans l'amont dont je viens de vous parler.
C'est ça,
l'espèce d'amont absolu qui représente la pensée, la grande pensée de Heidegger.
Et ça a marqué d'une certaine façon toute votre
recherche. Considérablement. Je suis très, très dépendant de ça. Et si je devais faire une proportion entre les apports divers que j'ai reçus de droite et de gauche, comme je viens de le dire, et cette pénétration profonde, qui n'a d'ailleurs pas été le fait de cette visite. Si j'allais le voir, c'était précisément que j'avais des questions à lui poser. J'avais donc déjà mariné dans sa pensée, depuis l'âge de 19 ans même. Si j'avais à faire une proportion, je dirais que c'est à 80% cet horizon ouvert par la pensée de Heidegger, qui est un horizon, pour ainsi dire, l'horizon absolu de l'humain, au moins si l'on entre dans son propos, bien sûr. C'est tous les penseurs, dès qu'on entre dans leur propos, ouvrent un très grand horizon, mais celui-là, Heidegger prétend ouvrir l'horizon de tous les horizons.
Est-ce que ce n'est pas un poète philosophe par rapport à quelqu'un qui a été son maître, d'ailleurs, qui est Edmond Husserl ?
Mais bien sûr que si. Et d'ailleurs, à l'époque, on l'appelait en Allemagne der Dichter Philosoph, n'est-ce pas ? Le poète philosophe. C'est une réputation qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas non plus extrêmement justifiée. Elle suppose qu'on a une certaine idée de la poésie et une certaine idée de la philosophie. Elle fait un mélange des deux. À mon avis, ça ne donne pas la pensée, n'est-ce pas ? La pensée est quelque chose qui est au-dessus ou en amont, comme toujours, je reviens toujours à ce mot, ou vraiment en amont de ces deux démarches. Mais il est sûr que... il a décroché de Husserl, qui rêvait de faire, lui, au contraire, une science, une sorte de mathématique universelle, une science extrêmement rigoureuse dans la phénoménologie, et qu'il a simplement pris dans cette démarche husserlienne l'instrument qui lui a servi à explorer différemment l'existence humaine, et dont le résultat a été Seinzeit, Être-Étant.
Vous avez assisté à la rencontre entre Heidegger et René Char.
J'ai plus qu'assister. Voilà comment ça s'est passé. Donc, mes relations avec Heidegger étaient un peu sporadiques, mais très intimes. Parce qu'il y a toujours eu entre, si j'ose dire, Heidegger et moi-même une sorte de complicité qui venait d'un cheminement un peu comparable. Et... quand Heidegger est venu en France, je crois que c'était en 1955, à Cerisy, pour prendre ce premier contact avec les philosophes français, contact qui lui avait toujours été interdit du temps du nazisme, il m'a demandé de traduire, pour être remis aux participants du colloque, le texte « Le retour au fondement de la métaphysique ». Alors ce texte, je l'ai traduit. Il a été renéotypé, et puis après nous sommes allés, j'anticipe un peu, mais nous sommes allés chez, pour ne pas l'oublier, nous sommes allés chez Lacan, dans sa propriété de Guitrancourt, très peu de monde se trouvait là, Jean Beaufray, Lacan, sa femme, Sylvia, etc., monsieur et madame Heidegger, Costa Saxelos et moi, et il n'y avait que ça. Et pour examiner ma traduction, parce qu'à l'époque, traduire Heidegger, c'était pas rien, hein, c'était vraiment se lancer dans l'inconnu. Et puis moi-même, après, je ne suis pas allé à Cerisy, j'étais appelé professionnellement à Vienne, en Autriche. Je n'ai donc rien vu de Cerisy. Mais ça, c'était le premier vrai contact. Après cela, à l'occasion de cela, plus exactement, Jean Beaufray avait demandé à Heidegger qui il désirait rencontrer en France, puisque c'était son premier voyage. Et Heidegger a répondu comme dans un souffle, immédiatement, comme si c'était une chose, une question qu'il attendait ou une évidence considérable pour lui, il a dit « Braque et René Char ». Alors Jean Beaufray m'a dit « Moi, Braque, je peux, je connais Braque et je peux les faire rencontrer, mais René Char, je ne le connais pas ». Alors, est-ce que vous pourriez, vous, Roger, faire quelque chose ? Et c'est moi qui ai été le premier, l'Hermès, si l'on peut dire, de cette première rencontre qui a eu lieu chez Jean Beaufray, passage Stendhal, près du métro Pyrénées, là-bas, près à Belleville, où, il me semble, oui, du moins. Dans un dîner où il y avait très peu de monde, il y avait Char, Heidegger, Beaufray, Madame Heidegger, Costa Saxelos et moi.
Heidegger parlait le français ?
Non, pas non. Du tout. Alors Costa et moi, nous servions d'interprètes un peu, c'est ça ? Oui, oui. Et lorsque le dîner a été terminé, René Charles nous a ramenés, Costas et moi, chez lui, rue de Chanley, et il nous a dit en sortant, c'est la première fois que j'entends un philosophe me parler comme il m'a parlé, et ne pas essayer de m'expliquer ce qu'est la poésie. Alors après, il y a eu beaucoup d'autres rencontres, mais celle-là fut la première. Et c'est celle qui est racontée par Jean Beaufray dans un texte intitulé, je crois, « Sous les marronniers » ou quelque chose comme cela, qui a été publié dans le numéro de l'Arc consacré à René Char et repris dans les volumes d'essais de Jean Beaufray, « Dialogue avec Heidegger ». Alors, cette première rencontre ne m'a pas lié avec l'un ni avec l'autre, puisque je les connaissais déjà, mais bien sûr a commencé à étoffer sérieusement les grandes amitiés qui, depuis toujours, je dois dire, ont été la chance de ma vie, quoi.
Je voudrais qu'on parle un peu de votre vie sociale. Le grand poète argentin Roberto Rojas, qui était un de vos amis, disait qu'un écrivain, un penseur, un poète qui n'était pas intégré dans la société ou n'avait pas une activité sociale, finalement, était un rêveur qui s'enfermait dans sa tour d'ivoire. Et que c'était une nécessité. Et vous-même avez mené pendant toute votre vie, quasiment, une double vie.
Tout à fait, oui.
Et des fonctions sociales importantes, comme, je crois, directeur général adjoint de la sidérurgie. Et alors là, je voudrais vous demander, par rapport à l'écriture, est-ce que cette double vie a posé un problème? Comment vous avez résolu cette dichotomie, disons?
Oui, c'est ça. D'abord, je dois dire que s'il s'agissait d'un organisme de propagande technique auprès des grands utilisateurs de l'acier, et que ce n'était pas tout de même un travail d'ingénieur, mais plutôt un travail de relations publiques, comme on a dit dans la suite, n'est-ce pas? Mais à l'échelon technique, et qui m'a obligé dès le début à m'informer quand même dans les domaines où je n'étais pas, où les études que j'avais faites, auxquelles les études que j'avais faites ne me préparaient pas, n'est-ce pas? Je dirais également que j'ai rencontré là des gens d'une très haute qualité humaine et que je leur suis rétrospectivement aussi reconnaissant que je peux l'être aux jésuites, qui sont d'ailleurs restés mes amis et qui m'ont énormément apporté. Cette vie était une vie absolument différente, mais la vie seconde d'écrivain était reconnue par eux, ce qui était même très important quand on pense qu'on sait que Saint John Perse devait se cacher d'être un poète, n'est-ce pas, et que les gens des affaires étrangères auraient pris ça plus ou moins bien. Moi, ce n'était pas du tout le cas. Et je me suis habitué très vite à vivre sur deux plans. Et Juarros a parfaitement raison. J'étais là au contact tout de même d'une vie plus réelle que celle de certains intellectuels en vase clos. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai parcouru vraiment le monde entier. J'ai eu des contacts avec des gens d'un assez haut niveau, les directeurs de cabinet de ministres, des très grands architectes, des grands ingénieurs, tout ça. J'étais au contact de la vie, non pas de la vie comme elle se vit, mais de la vie comme elle se conduit un peu, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est-à-dire des gens qui ont en main les leviers de commande du monde dans lequel nous sommes. Et ça aussi, c'est une façon de faire une expérience réelle. Je l'ai faite à fond, hein, et avec plaisir. Mais enfin, il y avait deux vies. Alors la première, pour moi, commençait le matin à 5h du matin, jusqu'à 7h30. C'était l'heure où les éboueurs passaient, en général, en bas dans la vie, et où les enfants se levaient pour aller au lycée. Et pour moi, c'était fini. À ce moment-là, le charme était rompu. Je ne travaillais que, non pas nécessairement dans la nuit, mais plutôt à l'aube. J'aime mieux l'aube que la nuit. Et le reste du temps était consacré à la vie professionnelle. Alors les week-ends, les jours de congé, naturellement, également, étaient des jours de travail personnel. Et les vacances, c'est sûr. Mais sans tellement de heures. J'avais le moyen de vivre cette vie-là, de vivre ces deux registres. Et je dois dire qu'ils s'enrichissaient mutuellement. Il est hors de doute que la discipline intellectuelle à laquelle je me soumettais de 5 à 7 heures et demie ne pouvait que profiter au travail de haut niveau que j'avais à faire dans les conseils, dans les réunions comme expert, dans des réunions internationales, etc., ça ne pouvait pas être inutile, loin de là. Et le reste nourrissait, donnait une assise, des racines et peut-être un peu plus de solidité à des spéculations qui seraient volontiers parties dans les nuages, n'est-ce pas ?
Et les enfants, c'était important dans votre vie ?
Les enfants étaient tout à fait importants, et je dois dire que dans la vie dont je vous ai parlé, je leur réservais lorsqu'ils étaient petits, c'est-à-dire jusque, disons, l'âge de la seconde, quoi. Je leur réservais à tous les trois, en général, 2 heures par jour pour suivre leurs devoirs. Ce qui fait que je ne pouvais absolument plus rien faire, puisque le matin, il y avait mon travail. Le reste du temps, il y avait le travail professionnel. Quand je rentrais le soir, je voyais les devoirs. Je tâchais de débloquer des difficultés qui, autrement, eussent été presque insurmontables. Pour mon fils Patrice, par exemple, le problème des particules séparables et inséparables en allemand. Ça a été longtemps, un nœud très difficile à dénouer. Mais enfin, on y est arrivé. Et il restait vraiment plus de temps, pour ainsi dire, sinon pour aller dormir, parce qu'il fallait quand même que je dorme, n'est-ce pas ? Nous ne sortions jamais. Ma femme était une femme admirable à cet égard. Elle n'avait pas de goût particulier. Elle comprenait parfaitement ma vie également. Je lui rends hommage. Et nous ne sortions pas, alors on allait se coucher.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Roger Munier s'entretenait avec Michel Camus. Demain, deuxième entretien. Réalisation, Nicole Salerne.